Directeur
Jean Loire. Comme on dit, je prends.
Alors évidemment, comment j'ai pas pu empêcher avant de démarrer cette interview d'aller dire les deux mots merveilleux que j'ai l'habitude de dire à chaque invité que j'ai. C'est-à-dire, j'ai dit toi, toi, je dis surtout bonne chance. Et là, attention, je n'ai pas n'importe qui. Imaginez, fermez les yeux. Nous sommes le 8 janvier, vous êtes à l'Opéra de Paris, place de l'Opéra. Et vous entendez une voix. Oh, vous dites, c'est pas possible. J'ai atteint le summum, le nirvana. Oh, elle a illuminé la soirée. C'est pas de moi, c'est quelqu'un qui a mis le commentaire le lendemain de cette soirée. Et alors, ça n'est pas n'importe qui, puisque dans notre temps merveilleux, ciel bleu ensoleillé, 28 degrés sur notre métropole, elle nous fait rayonner. J'arrête. Allez, bonjour Laetitia.
Bonjour Alain.
Alors, ce qui est assez original, c'est que tu fais rayonner. Mais bon, il y a un truc que je ne savais pas, c'est que je ne savais pas qu'il y avait un office de tourisme de l'île de la Réunion à Chalon-en-Champagne. C'est nouveau ?
À Chalon-sur-Saône, plus exactement.
J'ai dit quoi ?
Chalon-Champagne.
Mais tu vois, je suis perturbé parce que c'est toi.
Effectivement.
Je rappelle qu'on ne coupe jamais rien sur Direct en jeu, donc j'assume mes propos. Donc, à Chalon-sur-Saône, il y a un office de tourisme de l'île de la Réunion maintenant.
Alors, il y a une réunionnaise en tout cas qui fait un peu de bruit à Chalon-sur-Saône depuis 4 ans, exactement.
Dis-moi, depuis 4 ans, elle fait du bruit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'es tombée dedans quand t'étais petite ? T'as fait la rencontre ? Ce sont tes parents ? Vas-y, qui accuses-tu ?
Qui est-ce que j'accuse ? Alors, je vais accuser mon père qui nous a bercé de chansons de Jacques Brel, de Moustaki, de Ferrat, donc tous ces grands chanteurs français à texte absolument fantastiques. Et alors qu'on en avait marre, en fait, il insistait. Et du coup...
Merci papa.
Voilà, merci papa. Mais en tout cas, pas de chant lyrique. Ça, c'est vrai que c'était pas du tout, du tout dans nos habitudes d'écoute, non plus dans la culture réunionnaise, très peu développée. Moi, la seule chanteuse lyrique que j'écoutais, c'était la Castafiore, dans les albums de Tintin. Voilà.
Excuse, je me permets une question, parce que là, ça commence bien cette interview. tu écoutais la Castafiore dans les albums de Tintin.
Dans les albums de Tintin, retransmis à la télé.
Les albums de Tintin, j'ai jamais entendu, elle.
Moi, je les entendais dans ma tête. C'est toute la magie de la lecture.
Ah, oui,
c'est
d'accord.
D'entendre l'histoire dans sa tête.
Ouais, d'accord.
Non, les albums étaient bien sûr tous les épisodes qui étaient enregistrés, qui passaient à la télé quand j'étais petite.
D'accord, et c'est ça qui t'a donné envie de faire du chant, ça je comprends. Mais t'es quand même soprano.
Oui, je suis quand même soprano. En fait, j'ai découvert ma voix en chantant dans la chorale de l'église, en chantant avec ma famille. On aime beaucoup tous beaucoup chanter. Donc les repas de famille sont souvent très dansants, très chantants. Et c'est vrai que je plus petite, je me disais pas que j'avais une voix de soprano ou quoi que ce soit. Je savais juste que je cassais les oreilles un peu à tout le monde, que je parlais très fort, que je rigolais très fort, et par contre quand je chantais, généralement on m'écoutait.
D'accord, donc quelqu'un de très discret, très réservé, très timide.
Tout à fait.
Bon, et alors là, donc tu chantes, j'ai bien compris, quand elle est une église, tu chantes un peu partout. Qu'est-ce qui te décide d'aller plus loin ?
Alors, c'est vraiment l'envie. En fait, je sentais que vocalement, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Parce que moi, j'écoutais ces grandes chanteuses à voix que sont Céline Dion, Whitney Houston, Mariah Carey. Et j'essayais un petit peu comme ça d'imiter et de refaire ce qu'elles faisaient. Et je sentais bien que ça bloquait. Donc, ça a été d'abord une curiosité, l'envie de travailler ma voix. Et j'ai poussé comme ça la porte du conservatoire, vraiment sans aucune attente, parce que c'était pas du tout un répertoire auquel j'étais habituée, et même que j'osais envisager, en fait. Et là, ça a été une rencontre formidable avec mon premier professeur de chant, Guylaine Raffanel, qui m'a tout de suite dit « Ah ben, c'est du bois pour en faire ». Donc, je lui dis « Pardon ». Et en fait, elle me disait vraiment « Si j'ai envie, et si je comprends, si je me mets à travailler, je pourrais vraiment devenir une chanteuse lyrique ». Donc au départ, j'étais un petit peu très étonnée de ça, mais c'est le goût du pour le son, pour la voix, l'amour de la voix, et en travaillant, en découvrant comment une voix peut s'ouvrir, se développer, s'épanouir, atteindre des aigus avec à force de travail, bien sûr, mais ensuite avec naturel et facilité. Ça a été vraiment ma première approche très organique du chant. Et ensuite, je me suis mise à écouter de plus en plus d'opéra, des grands chanteurs, et j'ai été fascinée par cet art total, en fait, qui combine le chant, la musique et le théâtre.
D'accord, jusqu'au point d'en devenir professeur.
Jusqu'au point ensuite de devenir professeur. Donc j'ai passé mon diplôme d'études musicales à La Réunion, et ensuite c'est vrai que je me suis dit à partir de là, pour les études supérieures, il faut forcément quitter Lille. Et ne sachant pas très exactement où aller, et ne sachant pas non plus, en fait j'avais très peu de recul par rapport à ce que je faisais, je me rendais pas compte si alors on me disait que c'était que j'avais une voix pour pouvoir faire une carrière, mais c'est vrai que je voilà, j'y croyais pas trop, j'étais pas du tout dans ce milieu là donc je me suis dit on va y aller tranquillement, sereinement. Donc je suis rentrée au pôle sup d'Aix-en-Provence, où j'ai passé ma licence de musicologie et le diplôme d'état de professeur de chant, et je me suis dit, comme ça, je vais commencer à rencontrer du monde pour pouvoir enseigner, qui la pédagogie est aussi une deuxième passion, pour pouvoir enseigner et ensuite chanter. Donc j'ai fait mon petit chemin comme ça, pas à pas, pour réaliser mon rêve.
D'accord. C'est vrai cette rumeur que tu as eu le choix l'an dernier entre l'inscription à Miss France ou au concours Voix des Outre-mer, et tu t'es dit non, Miss France, je vais le laisser à la Martinique parce que bon, elle en vaut la peine.
C'est vrai que j'ai pris un petit moment. Vraiment, je me suis posée, je me suis dit non. C'est voilà, il faut que les outre-mer rayonnent, les différents outre-mer, pas toujours les mêmes. Exactement. Donc, je vais aller du côté du chant lyrique et je laisse notre très très belle Miss France être couronnée.
Alors, question gentille, je peux ?
Oui.
C'est toi qui as décidé de t'inscrire, ou c'est quelqu'un qui a dit « Oh, elle a une trop belle voix, je l'inscris au concours
» Comment répondre à ça ? Eh oui. J'avais en tête de pouvoir passer des concours, et donc je commençais un peu à regarder, j'hésitais un petit peu, j'y croyais pas à 100%, en fait, voilà, pour être honnête. Et c'est vrai que c'est une amie qui m'a dit, mais non, mais Laetitia, mais c'est pas possible, tu vas t'inscrire, ta. Donc, en fait, elle a été un petit peu comme un coach sportif qui me disait, vas-y, inscris-toi. Et du coup, suite à ça, ça a été lancé.
Donc, tu gagnes le concours régional dans un premier temps, tu vas à l'Opéra de Paris après. Tu dis qu'est-ce qui m'arrive ?
Oui. C'est vrai que je me dis pas ce qui m'arrive parce que je suis tellement concentrée dans ce que je fais que on réalise pas, en fait. Je me suis mise à partir du moment où j'ai gagné la demi-finale, je me suis dit là on a 3 mois, il y a une ligne droite où il faut choisir le morceau pour la finale, le travailler. Et puis moi j'avais relevé des petites choses qui me plaisaient pas dans ce que j'avais fait et que je me suis dit alors il faut que j'améliore ça. Donc je me suis mise vraiment avec une discipline de sportif, hein, de haut niveau, c'est ce qu'on dit, hein, le chant c'est du sport de haut niveau.
Exact.
Et à partir de ce moment-là, j'avais qu'un seul objectif, c'était la ligne d'arrivée à la finale. Et en fait, c'est une fois que je quitte ce rail, en fait, quelque part, où je reviens dans mon quotidien et je me rends compte, en fait, de ce qui s'est passé. Je me rends compte de l'investissement qu'il y a eu, de l'engagement physique, mental, émotionnel, financier, tout, en fait. Hein, tout a été orienté vers ce concours et cette finale.
D'accord. Et donc, tu te dis, allez hop, chiche, je me donne le droit d'eux, j'y vais. Enfin bon... J'étais en train de réfléchir ce matin, en train de me dire, mais bon, je suppose que tu as pris le train pour aller à Paris, tu as peut-être été en voiture, mais malgré tout, tu arrives place de l'Opéra, tu regardes le bâtiment, tu dis, je vais quand même pas rentrer dedans. Alors, tu vois, moi, par exemple, il m'est arrivé de passer devant l'Opéra de Paris, je me suis jamais dit, je vais quand même pas rentrer dedans. Je pense que... Mais là, tu te dis, c'est l'Opéra de Paris, ça n'est pas n'importe quel lieu.
Non. C'est un lieu chargé d'histoire. C'est une très grande. C'était très impressionnant. Et en plus, non seulement je passe devant l'Opéra de Paris et je me dis je vais rentrer dans l'Opéra de Paris, mais je rentre par l'entrée des artistes.
Non mais c'est normal. Attends, you're talking to me. Attends, tu t'appelles Laetitia Bolsey quand même. Tu vas pas rentrer par l'entrée banale du public. Attends, est-ce qu'il y avait un tapis rouge justement à l'entrée des artistes pour moi?
Alors, il y avait un tapis rouge à la gare de Chalon-sur-Saône. Ça, c'était vraiment la petite, parce que la gare est en travaux et en fait, ils ont mis un tapis qui est rouge vif. Donc, j'ai trouvé ça très, très drôle. J'avais fait une petite vidéo parce que voilà, on nous demandait tous dans nos différents territoires de faire une petite photo ou une vidéo du voyage. Et donc, j'avais filmé ce tapis rouge. Donc, voilà, c'était
mais
très
non,
drôle.
Mais non, attends, ça, c'est ta version, comment dire, très, très humble. Non, non, ils ont mis tapis rouge pour toi, voyons. Non, non, il n'y a pas de discussion possible. Bon, et donc, à l'Opéra de Paris, il n'y avait pas de tapis rouge pour t'accueillir. Ils exagèrent. Il n'y avait pas la garde républicaine, il n'y avait pas de fanfare, il n'y avait pas les pom-pom girls, rien du tout.
Oh. Ah non, tout se passe en très grande discrétion, justement, au 120 rue de Bion, par l'entrée des artistes, incognito.
D'accord, parfait. Bon, quand tu as interprété, tu t'es rendu compte que là, tu étais en train de vivre un de tes moments forts de ta vie?
Quand j'ai interprété l'air d'Elisabeth, en fait, j'étais extrêmement concentrée. Très concentrée sur la musique, sur le personnage, sur ce que j'avais envie de faire passer. Et aussi concentrée pour faire abstraction aux caméras, au jury très prestigieux qui était juste devant moi aussi, hein, rester dans cette concentration. C'est plutôt les jours qui ont précédé, la pré-générale, la générale, où en fait, là, je prenais vraiment la mesure de ce qui se passait, mais toujours en essayant de garder la tête froide. Parce que voilà, c'est un concours, tout peut se passer, tout peut arriver, et personne n'est à l'abri, donc voilà.
Ah, tout à fait, complètement. Donc tu ne mangeais plus, tu ne dormais plus, tu ne respirais plus, tu ne faisais plus de sourire, il n'y avait plus rien, ça n'existait pas, tu étais sur une autre planète.
En fait, c'est les bons critères, mais pas forcément les bonnes valeurs. Donc, c'est-à-dire que je dormais beaucoup, je dormais très bien, je faisais très attention à ce que je mangeais et à ce que je faisais plutôt. Je prenais très soin de moi.
Ouais. Alors, il y a un truc qui va être génial, c'est ce soir, puisque nous sommes le 21 janvier, ce soir, tu vas passer à la télé, comme on dit.
Absolument. Puisque c'est sur Culture Box, ouais. Rediffusion du concours.
Parce que si le concours a eu lieu le 8 janvier, qu'on a su que tu avais gagné, c'est ce soir que c'est diffusé donc sur Culture Box, et le 8 mars, c'est diffusé sur France Musique.
Musique, exactement.
Voilà. Tu fais comme certaines miss, tu tombes dans les pommes au moment où on entend ton prénom et ton nom. Tu dis qu'est-ce qui m'arrive, où je suis, où est-ce que j'habite.
Ah bah ça, oui, ça a été un petit peu ça. Je suis restée un moment assise sur le banc et ce sont les copains à côté qui m'ont dit mais Laetitia, mais vas-y. Donc c'est le temps de toute la pression qui descend en fait et j'ai été submergée par l'émotion, donc j'avais les larmes aux yeux. Au moment de la remise du diplôme.
D'accord. Et donc, depuis, on te voit partout, quasiment.
Partout, bah, pas encore partout.
C'est pas encore assez, on est bien d'accord. C'est pas encore assez, on est tout à fait d'accord.
Voilà, il faut y travailler encore.
Exactement. Mais bon, on entend parler de toi parce que tu as d'illustres prédécesseuses qui ont fait un certain nombre de choses au mois de juillet et qui ne sont pas passées inaperçues, quoi.
Oui, tout à fait. C'est une les voix d'outre-mer, c'est vraiment ce qui me plaît en découvrant ce concours, c'est que c'est vraiment une grande famille des outre-mer. Et quand je vois aussi bien sûr, on pense à Axel Saint-Cyrel qui a chanté la Marseillaise sur le toit du Grand Palais, mais aussi à Luanne Pommier qui a ouvert les Jeux paralympiques, et avant Marie-Laure Garnier qui a gagné les Victoires de la musique, qui avait chanté sous la Tour Eiffel. Donc ce sont de grandes qui ont ouvert la voie, et en tout cas j'espère être digne de ce qu'elles ont fait.
Est-ce que la voix des Outre-mer, enfin oui, ta voix qui vient des Outre-mer, a quelque chose de plus spécifique que quelqu'un qui viendrait de métropole? Est-ce qu'elle est plus chaleureuse? Est-ce qu'elle est plus enrobée? Qu'est-ce qui vous différencie?
Alors, je ne saurais peut-être pas dire exactement si elle est plus ou moins chaleureuse, mais je pense qu'il y a une spécificité à chaque voix, parce que en ce qui concerne le chant, l'instrument, c'est vraiment le corps. C'est vraiment la façon dont le corps est formé, les différentes proportions, la forme du larynx, la forme du crâne qui forment des espaces de résonance dans le corps. Et c'est vrai qu'en fonction du type, hein, si on est plutôt caucasien, si on est plutôt ou pas, je pense que les voix ne sont pas du tout structurées. Physiologiquement faite de la même manière. Oui, donc il y a une qualité des voix en fonction de l'origine des personnes, je pense.
D'accord. Comment tu conçois ton demain aujourd'hui? C'est que cette question.
Comment je conçois mon demain aujourd'hui? Comment je conçois mon demain aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est en tout cas pour moi de bien clarifier ce que je veux. Ce que j'ai envie de faire, parce que on ne peut pas tout faire. Pour bien faire les choses, il faut se fixer des priorités et savoir ce qu'on peut faire aussi. En tout cas, en chant, la voix évolue dans le temps, en fait. Donc, il y a des choses qu'on peut faire maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas faire maintenant. Donc, c'est à la fois me concentrer sur ce que je peux chanter maintenant et ensuite aussi avoir une vision sur ce que je vais pouvoir faire dans 10 ans. Et donc, c'est préparer un petit peu dans le répertoire, dans le travail vocal, tout cela. Et aujourd'hui, c'est aller frapper à des portes, aller chercher des agences artistiques, des directeurs de théâtre, des directeurs de festivals. Donc, c'est tout ce travail de réseau, de rencontres, pour pouvoir développer la carrière.
Comment ils t'ont accueilli quand tu es arrivé à Chalon-sur-Saône et après quand tu es arrivé au conservatoire? Parce que quand même...
Alors, l'arrivée à Chalon-sur-Saône, ça a été une haie d'honneur qu'ils m'ont faite.
C'est mérité.
C'était très, très émouvant. Et donc, j'avais aussi bien des amis ou des collègues qui étaient là, même des élèves qui étaient là, qui m'ont fait un énorme bouquet de fleurs gigantesque. Et beaucoup de petites attentions, de grandes attentions, de belles attentions. Et jusqu'à présent, ça continue. Et c'est un vrai honneur de recevoir ça.
Bon, ben en tout cas, la meilleure chose que je puisse te souhaiter, c'est que du bonheur. On est au mois de janvier, j'ai oublié de te dire bonne santé, bonne année à ce que tu viens de vivre.
Oui.
Parce que là, il n'y a pas besoin de
préciser. Mon année a commencé.
L'année a commencé d'une manière assez extraordinaire et tout. Et puis surtout, je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour expliquer tout cela. On rappelle le rendez-vous de ce soir?
Alors ce soir, 21h sur Culture Box, le concours, la 7e édition du concours des voix des Outre-mer.
D'accord. Et pour les auditeurs, faites semblant de ne pas savoir qui c'est qui a gagné. Comme ça vous laissera un peu plus. Parce que bon, si vous le savez déjà, c'est un peu embêtant. Mais bon, vous pouvez quand même le savoir. T'es passé en première, en deuxième, en cinquième, en dixième?
Avant-dernière.
Ah, carrément, avant-dernière.
Donc, faut tout regarder.
Ah, exact. Donc, voilà. Donc, vous n'aurez pas possibilité de caler parce que c'est à la télé. Vous ne pourrez pas caler, comment dire,
absolument,
à l'avant-dernière. Puis, regardez les autres parce qu'ils en valent la peine.
Absolument.
Parce qu'ils ont tous des voix assez extraordinaires. Merci à toi, en tout cas. Puis, plein de bonnes choses.
Oui, merci beaucoup, Alain. Bonne journée.